لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. On avait commencé le tafsir de Walayl Iza Yakhsha depuis le vendredi, et on avait expliqué que tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala commence ce surat en faisant le qasam par certains éléments qui ont un rôle indispensable de la création. Allah Ta'ala, lorsqu'il jure par des créatures, c'est pour montrer également l'importance de ces makhlouqat. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, le surat, il fait le qasam par wal-layli et par wal-nahari. Et on a vu que tant le matin que le soir, ce sont des signes de la grandeur d'Allah, ce sont des signes de la puissance d'Allah, et ce sont là des signes de la perfection dans l'organisation de l'univers. La perfection dans l'organisation de l'univers. Et on a vu que seul Allah subhanahu wa ta'ala décide du lever et du coucher du soleil. Et si l'humanité entière se réunissait pour qu'une journée se rallonge d'une minute, ou qu'une journée soit raccourcie d'une minute, personne, aucun scientifique, aucun astronome, aucun homme politique, personne ne pourrait le faire. Tout ça, c'est dans les mains d'Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé, comme on avait vu dans le ayat, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. On a vu que si Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé que le soleil ne se lève plus, Allah ta'ala interpelle l'être humain, quel ilah, quel dieu à part Allah peut vous ramener le soleil? Si Allah décide que le soleil ne se lève pas demain, personne ne peut ramener le soleil. Et si Allah ta'ala décide qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a plus de vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Et la suite du ayat, l'autre cas de figure, si Allah ta'ala décide que le soleil reste en permanence et qu'Allah ta'ala n'ordonne pas au soleil de se coucher, quel ilah, quel dieu ou quel makhlouq qui peut ordonner à ce soleil, qui peut repousser, qui peut cacher les lieux de ce soleil? Et on sait que si le soleil était présent en permanent, si le soleil était présent de manière permanente, il n'y aurait plus de forme de vie. Aucun végétal, aucun animal ne pourrait survivre avec un soleil en permanence 30 jours sur 30. Et dans 98% des terres, dans 98% des endroits du globe, Allah Ta'ala fait respecter cette alternance entre le jour et la nuit. Et il y a des cas extrêmes comme l'Antarctique ou l'Arctique, mais on voit que le nombre, les formes de vie sont quasi inexistantes dans ces endroits. On a vu donc وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Oui. Et la dernière fois, on avait expliqué وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. On a vu également que c'est la sunna d'Allah. Allah Ta'ala a organisé ce kaun, cet univers, de la sorte que la procréation, la vie, ne peut avoir lieu que par accouplement d'un mâle et d'une femelle. Et à travers ces paroles, on voit bien que les personnes qui prétendent à la liberté sexuelle, comprenez, ceux qui prétendent que l'homosexualité fait partie de la nature, ben, qu'ils essaient de créer un enfant, qu'ils essaient de donner vie à un enfant. Il avait expliqué que si tous les hommes de ce dunya décidaient, na'oudou billah, de vivre ensemble, et que toutes les femmes de ce dunya décidaient de vivre ensemble, de respecter cette liberté, comme ils le disent, est-ce que d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura encore un être humain sur la terre? Parce qu'un homme ne peut pas donner de vie avec un homme. Tout comme une femme ne peut pas donner de vie avec une femme. Vous l'avez bien expliqué, lorsqu'on parle de création, qu'est-ce qu'on veut dire par création? Ce que les scientifiques ils font par ce qu'ils appellent les bébés éprouvettes, ou alors in vitro, ou autre chose, même les clones qu'ils créent, toutes ces choses-là, toutes ces avancées scientifiques, ce ne sont que des illusions. Les scientifiques ont l'impression de donner la vie, mais en fait, ils ne font que photocopier, ou alors ils ne font que développer une forme de vie qu'Allah a déjà créée. En prenant une cellule c'est quelque chose de vivant. Cette cellule, qui l'a créée? C'est Allah qui l'a créée.
pour savoir ce que les scientifiques peuvent créer quelque chose, comme la dernière fois, comprennent. Hein, il y avait le dernier, je ne sais pas l'Express, je ne sais pas quel magazine. C'était vraiment intéressant. Ça, j'encourage le jeune à lire. 60 savants répondent aux questions. C'est des questions existentielles sur le temps, sur le Big Bang, sur la fin du monde. C'était des questions existentielles et 60 plus grands, enfin, s'ils se prétendent les plus grands savants du monde, ils essaient d'apporter une réponse. Alors, si on prend ces 60 savants, on ne les donne qu'une paire de gants, chacun, et on les met dans une pièce. Sans machine, sans outil, on les dit maintenant, crée. Est-ce qu'ils peuvent créer? Est-ce qu'ils peuvent faire kun fayakun? Parce que la création d'Allah, c'est kun fayakun. Allah a ordonné à Adam et Sam d'exister, et à Adam et Sam a existé. Ça, c'est la création d'Allah. Mais prendre une cellule dans un corps déjà vivant, dans chaque particule de notre corps, il y a une vie. D'accord? Prendre une cellule et à partir de cela, travailler et faire ce qu'ils font, ce n'est pas donner la vie. Et comme on l'a dit la dernière fois, si je prends ce livre de tafsir, je photocopie et puis je vous dis voilà, j'ai écrit le livre de tafsir. Je n'ai pas écrit. Celui qui a écrit, c'est celui qui avait une feuille blanche et qui avait un stylo. Il m'a écrit. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui a apporté à partir de rien. Mais moi, je n'ai fait que prendre quelque chose qui existait déjà, j'ai mis dans un appareil et j'en ai ressenti le double. Voilà, en plus grand exemplaire, ou en plus petit exemplaire, ou en couleur, où j'ai scanné, j'ai enlevé telle chose, j'ai rajouté telle chose. Mais mon travail a été fait à partir de quelque chose qui existait déjà. Donc, je ne peux pas dire que c'est moi qui ai à l'origine de ce livre, de ce kitab. Vous l'avez vu également, que lorsque certains ulama, rahimahoum fassirin, entre autres, Habl al-Umma ibn Abbas, lorsqu'il dit que وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى Allah Ta'ala parle, c'est pas que de des mâles et des femelles de manière générale, mais Allah Ta'ala parle de Adam et Hawa alayhim as-salam, que l'exemple de la création de Adam et de Hawa alayhim as-salam, c'est une grande preuve également de la puissance d'Allah, car Allah Ta'ala a créé Adam alayhim as-salam sans père ni mère, et Allah Ta'ala a créé Hawa alayhim as-salam à partir d'un homme qui existait, mais sans mère. On a vu également que les Nasara, une des raisons pour lesquelles les Nasara adorent prétendre que Isa a.s. a des attributs divins, parmi leurs raisons, c'est que Isa, Jésus donc, a eu une naissance anormale, a eu une naissance extraordinaire à partir d'une mère sans père. Ce qui les amène, ils arrivent à cette conclusion que une personne qui naît de cette manière, c'est une personne qui sort de l'ordinaire et qui certainement a des attributs divins. Si on respecte cette logique, on doit se dire que ben, dans ce cas, on doit adorer Adam a.s. également, parce que Adam, la création de Adam est encore plus impressionnante que la création de Isa, car Isa avait une mère à l'origine, mais Adam a.s. n'avait ni père, ni mère. D'accord? Donc on voit la grandeur d'Allah, non seulement à travers وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, la création de l'espèce mâle et de l'espèce femelle, mais également si on prend le tafsir de la création de Adam et de Hawa a.s. Ensuite, on avait vu Inna sa'yakum la shatta. Inna sa'yakum la shatta. Dans ce ayat, Allah Ta'ala explique bien que les efforts des êtres humains divergent. Ce n'est pas toutes les personnes qui auront le tawfiq de faire les mêmes actions et ce n'est pas tout le monde qui aura la même destinée. Certaines personnes, Allah Ta'ala a décidé pour eux de faire des bonnes actions et certaines personnes, Allah Ta'ala a décidé qu'ils accompliraient des péchés. Certaines personnes, Allah a décidé que leur destinée sera l'enfer, le paradis, et d'autres, Allah Ta'ala a décidé que leur destin, qu'en finalité, ils seront dans l'enfer. Mais pour autant, on avait expliqué que cela ne veut pas dire que Allah a pris la décision et qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on a fait un péché, c'est parce qu'Allah l'avait décidé. Si on a fait une bonne action, c'est parce que Allah, c'est tawfiq min Allah. C'est tawfiq min Allah, mais Allah Azza wa Jal, et on va voir dans le ayat suivant, que plus, à travers les hadiths également, plus on fait de bonnes actions, plus Allah donne à l'être humain tawfiq, plus Allah choisit, Allah accepte une personne pour faire encore plus de bonnes actions. En aucun cas, cela veut dire qu'on ne peut justifier les péchés par le taqdir. Ça, c'est la pire des choses. On ne peut en aucun cas justifier un péché par le taqdir en se disant que tout a déjà été écrit, tout est prédestiné. Donc, si je fais un péché, je ne fais qu'appliquer ce qu'Allah Ta'ala a déjà décidé. Ça, c'est la pierre des choses, ça, c'est des pierres de Shaytan. Et les ayats qui viennent prouvent bien que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a bien dit que Allah a déjà tout écrit. Si on avait dit que Allah Ta'ala nous laisse le libre arbitre, on a le libre arbitre, on a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais si on se dit qu'Allah Ta'ala nous laisse le choix, et Allah n'a pas encore décidé quelle sera notre destinée, ça veut dire qu'Allah ne connaît pas le futur. Si je dis que Muhammad, Allah te laisse le choix entre faire le bien et faire le mal, d'accord ? Et logiquement, la personne doit me dire, si j'ai le choix, en fonction de mon choix, c'est assez complexe, mais il faut bien suivre. Tout ce qui concerne le taqdir, c'est compliqué. Mais en général, en fonction de mon choix, j'aurai le paradis ou l'enfer. Mais logiquement, si Allah me laisse le choix de faire ce que je veux faire, le bien ou le mal, logiquement, il n'y a pas encore de paradis destiné ni d'enfer destiné. Et si on part du principe qu'Allah n'a pas encore décidé qui va aller en enfer, qui va aller au paradis, et qu'Allah attend nos a'mal jusqu'à la dernière minute pour voir dans quel camp on se case, ça veut dire qu'Allah ne connaît pas le futur. Cela va à l'encontre de la aqidah qu'Allah connaît le passé, Allah connaît le présent, Allah connaît le futur, et même comme on avait dit, ma lam yakun law kana kayfa yakun, ce qui n'existe pas, si cela avait existé, comment cela aurait été? Ça, c'est le ilm d'Allah. Maintenant, si on dit que normalement, Allah ne doit pas encore savoir, na'oud billah, si on va dans le paradis, dans l'enfer, c'est nafs. C'est comme si on remet en cause le ilm d'Allah. Alors que Allah connaît déjà la destination des gens du paradis. Qui va aller au paradis? Qui va aller en enfer? Au moment où on parle sur le paradis, sur cet ulama, il y a déjà écrit le nom des gens qui vont y accéder. Et sur la porte de l'enfer, il y a déjà écrit le nom de la sahib des gens qui vont y aller. Maintenant, si je vous dis, ce qui est le cas, que Allah a déjà écrit qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Maintenant, quelqu'un peut se dire, mais si ça a déjà été écrit, ça veut dire que ça a déjà été décidé. Donc, à quoi bon travailler, à quoi bon faire des a'mal si tout a déjà été décidé? Mais qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas que Allah ne connaisse pas qui va aller au paradis, qui va aller en enfer, sinon ça veut dire qu'Allah ne connaît pas le futur, et on ne veut pas non plus qu'Allah connaisse déjà. Donc, on veut quoi alors? Ça prouve bien que la logique humaine ne peut pas comprendre le taqdir. On m'a suivi là. Ça prouve bien que dans notre petit sachet en plastique, un ami qui disait ça, longtemps disait que dans un sachet Score, un sachet Carrefour, un sachet Cora, on cite tous les noms parce qu'on ne veut pas faire de pub, un sachet Super U, un sachet Dia, quand on a dit tous les supermarchés, moi on n'a pas dit un. Dans un sachet, c'est écrit dessous, contient 9 kilos maximum. Si vous allez mettre 30 kilos, le sachet va céder. Mais c'est pareil, c'est dans notre petite boîte cervicale. Le peu qu'Allah nous a donné de Qudra de quoi comprendre. On ne peut pas comprendre l'univers, tout ce qu'il contient. On ne peut pas comprendre des choses qui nous dépassent tellement que Allah n'a même pas pris le soin de nous expliquer. Allah nous a donné quelques détails sur le paradis, quelques détails sur l'enfer, quelques détails sur la tombe, etc. Et parfois, ces détails même, ça amène les gens vers la perdition. Je vous explique. Il y a quelque temps, il y avait un alim qui avait fait sur le centre-ville, un bayan, je crois que c'était le 27e Ramadan. Il avait expliqué les na'im du paradis. Il avait expliqué les bienfaits du paradis. Et je pense que ce genre de discours, je ne sais pas, est-ce que c'est adapté au grand public ou non? Il avait expliqué que dans le paradis, il y aura, je ne sais plus le nombre de boissons différentes, de goûts de boissons différents. Je ne sais pas, 30, 60, 70, il y aura 70. Je ne sais pas combien il a dit, 70 certainement. 70 boissons différentes. Mais c'est hap. Si le Prophète nous l'a dit, on doit avoir iman dessus. Mais là où c'est grave, c'est que certaines personnes qui se pensaient intelligentes, ils se sont dit, mais comment ça, 70 boissons différentes? Elle dit, sur ce bas monde, on va boire Pepsi, on va boire Coca, et Pepsi, Coca, ça a le même goût. D'accord? Si vous avez Pepsi, Coca ou Maca-Cola, à moins d'être des onologues ou des Coca-Cologues, mais pas distinguer. Voyez? Je vous donne de la boisson noire, pétillante. Je vous donne Orangina, je vais vous donner une boisson aux agrumes, du Perrier. Je dis, attends, on aura 20 boissons, mais comment est-ce possible? 70 goûts différents, non, c'est pas possible. Allah, il y a des gens qui ont dit ça. Mais vous savez, quand une personne remet en cause ça, il remet son iman en cause. Parce que si c'est notre prophète qui l'a dit et qu'on remet en cause, c'est grave. Et pire encore, si c'est Allah qui l'annonce et qu'on remet en cause, c'est grave. Si on remet en cause l'existence du hur, si on remet en cause, attends, mais c'est une femme, elle lit les hadiths sur les hur, et elle se dit que je serai peut-être la reine des hur. Je serai certainement la reine des hur. Mais comment cela se fait-il que je vais accepter que mon mari soit avec d'autres hommes? Moi, je pense que ce genre de hadith n'est plus adéquat à notre faiblesse d'esprit et à notre faiblesse d'iman. Parce que si quelqu'un vient à rejeter ce genre de choses, c'est grave. Si quelqu'un vient à renier ce genre de kalam, ce genre de parole qu'Allah a dit ou que le Prophète a dit, il remet son iman en question. C'est-à-dire que le peu de détails qu'Allah nous a donné, lorsqu'Allah a dit dans le Coran que dans le paradis, il y a le fleuve de miel, fleuve de vin, fleuve de lait, fleuve d'eau. Et quelqu'un dit fleuve de miel. C'est quoi un fleuve de miel? C'est un fleuve de miel, c'est quoi? Le miel, ça coule pas, etc. Là, il est en train de remettre son iman en cause. Et là, il est en train de renier un ayat du Coran. Carrément, de Sourate Mohammed, il est en train de renier un ayat du Coran. Donc, parfois, les petits détails qu'Allah nous a donnés sur le paradis, ça même, parfois, ça fait fitna. Ça fait fitna. Quand, c'est exactement comme, il y avait un ayat, « Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan » L'ayat, c'est-à-dire que lorsque le prophète avait expliqué, si je ne me trompe pas, de tafsir, qu'Allah me pardonne mes erreurs, quand le prophète avait expliqué combien de personnes tiennent, combien de malaïka il y a auprès du arche d'Allah, ou combien de malaïka tiennent le arche d'Allah, certains Quraysh ont dit, ah oui, il n'y a que ça, il y a peu d'anges qui sont auprès du arche d'Allah, etc. Le nombre que le prophète avait cité, avait cité dans le Coran, ce chiffre a été un fitna pour les Quraysh, pour les kuffars de Quraysh. Ils ont trouvé que c'était peu. Et ils croient qu'ils ont des armées supérieures. Là, ils sont mis à penser n'importe quoi. Donc, parfois, les indices sur l'au-delà, les indices sur le ilm al-ghayb, sur le alam al-ghayb, le monde de l'invisible, c'est suffisant pour qu'on ne comprenne plus. D'accord ? C'est pour ça que le taqdir, on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas comprendre qu'Allah ne sache pas qu'il va entrer dans le paradis de l'enfer. On a compris que c'est inacceptable. Mais en même temps, on ne peut pas accepter qu'Allah ait déjà décidé. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Mais ce qu'Allah a déjà décidé, Allah a donné la possibilité à chaque être humain de choisir entre le bien et le mal. Mais dans sa connaissance infinie et illimitée, Allah sait déjà que Mohammed va choisir le droit chemin, et Jean-Pierre va choisir le mauvais chemin, que Christophe va choisir le mauvais chemin, tandis que Ismaïl, Ishaq, Ahmed, ils vont rester dans l'adoration d'Allah. Vous voyez ? Et lorsqu'on parle du ilm d'Allah, c'est une connaissance qui dépasse nos connaissances. Ça, là, on ne peut pas. Ça, c'est un des. Ça, c'est que, quand on enseigne Asma ou Sifat, quand on étudie Asma ou Sifat, on dit que on appelle ça Asma Mushtarika. On parle du ilm, l'homme a ilm. Allah a ilm. Mais ce n'est pas la même chose. As-sam'a. Allah est Samir. Nous, on asma, on entend également. Mais notre oui au UIKRIMAE et l'oui d'Allah, ce n'est pas la même chose. Allah, il entend tout. Voyez, nous, on entend peu de choses. Mais Allah a utilisé un mot intermédiaire. Ce qu'on appelle ism mushtarak, un mot que l'être humain comprend. Ah oui, entendre, c'est quoi, on connaît. Voir, c'est quoi, on connaît. Connaître, ilm, on connaît, c'est quoi. Mais le ilm d'Allah, c'est ma kana, wa ma saufa yakun, wa ma lam yakun, law kana kaifa yakun. Ça, c'est le ilm d'Allah. On ne peut même pas approcher la connaissance d'Allah. Alors, pourquoi j'explique tout ça? Parce que ce qu'on va voir comme hadith, ça peut être fitna. Les hadiths qu'on va lire sur le taqdir, on peut se dire, ben attends, mais tout compte fait, tout a déjà été prédestiné. Ben justement, on va voir ça. Et les sahaba, ils ont posé cette question. Là, donc on passe au ayat, voilà. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Premier cas de figure. On a dit que Allah Ta'ala dit que vos destinées sont différentes, vos actions sont différentes. Maintenant, Allah Ta'ala, il va citer les deux cas de figure. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. La majorité des mufassirins disent que ce ayat concerne Hazrat Abu Bakr As-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Alors Abu Bakr, avant de parler de la question du taqdir, il y avait un hadith qui parlait, voilà, Imam Qurtubi rahimahullah, il rapporte qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit que ce verset concerne Abu Bakr. Et c'est l'opinion de la majorité des mufassirins. Lorsque Amir ibn Abdullah ibn Zubair radiallahu anhu rapporte Kana Abu Bakr yu'tiqu 'ala al-islam 'ajaiz wa nisa. Il rapporte qu'Abu Bakr radiallahu anhu, à l'époque des Jahiliyyah, il achetait des esclaves et il les affranchissait. Et il n'achetait pas les hommes, il avait l'habitude d'acheter les personnes 'ajaiz, les personnes âgées, également les femmes. Il les achetait et il les libérait. Alors, فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ طَعَفًا. Le père d'Abu Bakr, qui à cette époque n'était pas encore musulman, il ne comprenait pas pourquoi son fils s'obstine à acheter des esclaves âgés ou des femmes faibles et à libérer tout de suite. Il dit, oh Abu Bakr, oh mon fils, لَوْ أَنَّكَ أَعْتَقْتَ رِجَالًا جُلْدًا يَمْنَعُونَكَ وَيَقُومُونَ مَعَكَ. Dit, oh mon fils, pourquoi tu n'achètes pas des esclaves, des hommes qui sont jeunes, qui ont de la force, et qui, après que tu les aies libérés, ils peuvent te rendre des services, ils peuvent te protéger, ils peuvent t'aider dans ce que tu veux faire. Je veux dire que je ne t'empêche pas d'acheter ces esclaves et de libérer, mais quel intérêt à acheter une personne âgée et à libérer? Quel intérêt à acheter une femme faible à libérer? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun retour de ces gens-là. Il ne comprend pas c'est quoi la notion de thawab, de ikhlas, de jannah. Il n'y a pas iman. Il dit achète des esclaves, des hommes qui sont forts, et quand tu les auras libérés, ils seront toujours reconnaissants. Tu auras besoin de quelque chose, ils seront là. Tu es dans une difficulté, ils vont t'aider. Regardez la réponse d'Abou Bakr. Ya Abati, du haut papa, ô mon père, innama ulid ma ulid, et Ibn Abbas, Abou Bakr a bien fait comprendre à son père qu'il sait ce qu'il fait. Il a fait comprendre à son papa, à son père, que lui, il sait pourquoi il fait ça, qu'il libère, il sait quelle est la raison. Alors, juste de ce hadith, Wa fi riwaya innama uridu ma 'inda Allah. Le riwaya était dans le kitab, il avait écrit à la main. Innama uridu ma 'inda Allah. Et c'est cette phrase qui est plus pesante que la première phrase. Il a répondu à son père, ô mon père, innama uridu ma 'inda Allah. Je veux ce qu'il y a auprès d'Allah. Ce que je recherche à travers la libération de ces esclaves, c'est le contentement d'Allah. Je recherche ce qu'il y a auprès d'Allah, ce qu'ils peuvent m'apporter, la reconnaissance ou le retour des choses, ça ne m'intéresse pas. Alors, subhanallah, il y a tellement de durous, tellement de leçons à tirer de cette parole d'Abou Bakr. Tout d'abord, on avait déjà parlé de l'esclavage. Et certains occidentaux peuvent se demander, oui, mais l'islam a soutenu l'esclavage, etc., etc. Ben, venez un petit peu voir l'histoire de la Réunion. L'histoire de la Réunion, ben, je ne sais pas moi, qui a soutenu l'esclavage à la Réunion. On ne va pas rentrer dans des sujets qu'on ne doit pas aborder, mais qu'on comprenne bien les choses, regardons, je ne pas de regarder, mais les documentaires, ou alors les films historiques sur la Réunion, regardez bien qui c'est qui supportait le plus l'esclavage. Maintenant, l'esclavage qu'il y avait à la Réunion, et l'esclavage qu'il y avait à l'époque du Prophète, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que vous imaginez Abou Bakr ou Omar ou Uthman qui attache son esclave, qui le fouette, qui lui donne des coups de bâton, ou qui lui fait du tort, comme on sait comment ça s'est passé l'esclavage dans les DOM, dans les territoires d'outre-mer, et comment ils allaient, comment c'était pas les musulmans qui allaient chercher les esclaves en Madagascar ou au Mozambique, etc. Hein. C'est pas nous, on sait bien nous c'est qui allait en bateau dans ces pays africains, qui volait, ils volaient des gens, ils volaient des enfants, ils les mettaient dans les bateaux, et les ramenaient à la Réunion pour travailler dans le champ, ou les ramenaient je ne sais où, pour travailler, et les fouetter, il les faisait ta'zib, il les persécutait, quoi qu'ils travaillent. Mais est-ce que vous pensez que les sahaba, ils ont agi de la sorte? L'esclavage dans l'islam, tellement l'islam a donné de droits, tellement l'islam a donné, premièrement, de droits à l'esclave, qu'un esclave, à l'époque du Prophète sallam, avait plus de droits qu'un réaliste. Un esclave, à l'époque du Prophète sallam, avait plus de droits qu'une personne qui travaille, qui a le RMI, ou une personne qui travaille, qui a le SMIC. On va revenir là-dessus. Et il y a tellement de fada'il, il y a tellement de vertus, il y a tellement de hadiths qui incitent le musulman à libérer l'esclave. Ou alors qui dit que celui qui fait telle action, il aura la récompense d'avoir affranchi un esclave. Tellement al-hasl, l'encouragement en ce qui concerne la valeur du fait de libérer un esclave, que libérer un esclave, c'est devenu une bonne action. Donc il y a tadrib. Et également, il ne faut pas oublier qu'on est à une phase intermédiaire. Pendant tout le jahiliya, pendant la période de l'ignorance, les Arabes avaient des esclaves. Si dès l'arrivée de l'islam, on avait décidé dans la charia de l'abolition de l'esclavage, ça aurait été une population exceptionnelle de personnes qui se retrouvaient directement à la rue. Ils n'ont plus de maîtres, ils sont livrés à eux-mêmes. Comment ils vont s'intégrer dans la société? Alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de biens, ils n'ont pas de droits, ils ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas réfléchir de même qu'ils ont toujours été sous le joug de l'esclavage, alors que l'islam les a donné leurs droits. Regardez Bilal, il a été un esclave. Avec le imam qu'il avait, Abou Bakr l'a libéré. Vous voyez? Tellement pour revenir au premier point, et on va traiter brièvement, parce qu'on a déjà expliqué ça avant, le prophète, alayhi salam, explique quels sont les droits de l'esclave. Le prophète a dit, si je me souviens du terme du hadith, ikhwanukum, en ce sens, khawalukum, ja'alahumullahu, tahta aidikum, ou comme a dit alayhi salam, le prophète sallam décrit les esclaves comme étant vos frères. Le hadith commence par ikhwanukum, que ces esclaves ce sont vos frères. Allah les a mis sous votre responsabilité, sous votre tutelle. Et là le prophète explique les droits. Alors que dans dans certains textes, on attend je ne sais pas combien de siècles pour dire que les hommes sont tous égaux. Là, dans l'islam, ces personnes sont certes esclaves, mais le prophète ne les décrit pas comme des sous-hommes. Le prophète les dit, ikhwanukum, le hadith commande de la sorte, ikhwanukum, vos frères. Et puis le prophète explique les propos. Pour résumer, parmi les droits que le prophète a attribué à donner à l'esclave, le prophète dit que vous les donnez à manger de ce que vous mangez. Donnez-les à manger de ce que vous mangez. Dans le hadith, il dit que si votre serviteur a cuisiné, il a préparé la nourriture pour vous, on n'a pas le droit de le renvoyer sans que soit il se met à table avec vous. Et puis le hadith, ça ne vient pas de moi ça. Hadith, c'est dans un des kutub sitta, dans l'époque d'étudiants, c'est dans un des, pour être plus précis, dans un des quatre sunan. Le hadith dit bien que la personne qui est à votre service, il a cuisiné, soit il partage le repas avec vous à table. Dire, ou alors, ça veut dire que si les commentateurs disent, si cet esclave a honte, il a honte de se mettre à table avec vous, le prophète dit, dans ce cas, il faut lui donner un peu de nourriture qu'il mange à part, qu'il mange dans l'endroit où il a l'habitude de manger. De l'autre jour, quel patron invite ses invités à table avec lui? Ça, c'est le droit en ce qui concerne la nourriture. Les hadiths disent également qu'on doit les donner des vêtements, les mêmes vêtements que nous portons. C'est pas que lorsque les vêtements sont déchirés, on est prêt à les envoyer à la Croix-Rouge, c'est troué, etc. Là, on va donner, non! Qu'on les donne de bons vêtements, qu'ils portent des vêtements comme nous portons. Ça, c'est des propos de l'esclave et des prophètes. Également, le prophète a été dit, il y a un nas du hadith, notre prophète a été dit à un propriétaire d'ordonner à son esclave de faire quelque chose qu'il ne peut pas le faire, de lui donner un travail trop difficile. Ça, c'est les droits que notre prophète a donné à l'esclave. Maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce qui reste de la condition d'esclavage avec tous ces droits? Si ce n'est juste que l'appartenance et la fidélité qu'il y a entre cette personne et son maître. Et pour terminer, lorsque on connaît Zayd radiallahu anhu, qui était l'esclave du Prophète sallam, lorsque ses parents ont retrouvé la trace de leur fils, et ils ont été voir le Prophète sallam, il a dit au Prophète d'Allah, on te donne telle somme d'argent contre notre fils Zayd. Le Prophète sallam a dit, en ce qui concerne l'argent, vous pouvez le garder. L'argent, je n'en ai pas besoin. Vous voulez votre fils, prenez votre fils. Et là, Zayd dit à ses parents, non, je ne pars pas, je ne quitte pas le prophète sallam. Et elle dit une parole, elle dit que je préfère, elle dit rester dans l'esclavage du prophète sallam, cela est mieux pour moi, je préfère cela à 1000 libelles. Ça c'est un esclave qui a vécu avec le prophète sallam et qui ne peut plus s'en détacher. Est-ce que c'est vraiment une condition d'esclave? Anas ibn Malik, si je ne me trompe pas, Anas, qui a vécu toute son enfance au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plus de 10 ans, il dit que pendant toutes ces années, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a fait de remarques. Jamais il m'a dit à propos d'un travail que j'ai fait, pourquoi tu as fait ça? Et jamais il m'a dit à propos d'un travail que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait une remarque, notre prophète n'a jamais fait une reproche. Ça, c'était le comportement de le prophète sallam avec les personnes qui travaillaient. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a aucune comparaison possible entre l'esclavage, comme nous l'avons compris avec l'histoire de la Réunion et autres, et l'esclavage qu'il y avait dans l'islam. Et on a vu qu'au fil du temps après, il y a eu en masse la libération des esclaves.